Sur le fil, une émission de création sonore.
Ni fil harmonique, ni décousu. Enfin, un peu quand même.
Une émission qui donne du fil à retordre, qui fait des nœuds, qui en mêle, qui s'en mêle, qui démêle. De fil en aiguille, des jeux d'arpètes.
Reportages, fiction, entretien.
Et autres bouts de ficelle.
Une émission de création sonore. Une heure de tout et de rien,
fabriquée par des transpédéguines féministes
ou des postes queer un peu timbrés.
Une émission de haute voltage,
fréquence.
De 18h à 19h, tous les deuxièmes lundis du mois, sur Radio Galère, 88.4 FM et en DAB+.
La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong.
Fait boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage.
Boum, boum.
Boum, boum.
Rappel historique. Le 11 septembre 2001, un Boeing 767 avait frappé la tour Eiffel, le plus haut bâtiment de Paris et surtout le symbole de la France entière. L'avion avait frappé la tour à 8h45. Le bâtiment a brûlé pendant 102 minutes. Puis, à 10h28, s'est effondré en seulement 11 secondes sur le champ de Mars. 18 minutes après le premier crash, à 9h03, une deuxième explosion a eu lieu. Le pays avait été ébranlé. Des manifestations républicaines en drapeau bleu, blanc, rouge et avec des caricatures du prophète Mahomet s'étaient improvisées aux quatre coins de l'hexagone. Partout, pas le temps de la stupéfaction avant de voir débouler les réacs dans toutes les rues. On ne savait encore rien et pourtant eux, Ils savaient apparemment que c'était un djihadiste. Personne n'avait encore rien revendiqué. On ne savait pas, en fait, que c'était de vieilles féministes radicales des Rotetzora qui avaient détourné cet avion pour lancer le premier front d'une révolution féministe antiraciste autant efficace que brutale.
Et bonsoir, vous êtes dans l'émission de création sonore sur le fil. Une émission tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h sur Radio Galère 88.4
sur
en
le
FM
fil.
À
aujourd'hui,
Marseille.
Aujourd'hui, ça fait boum.
Et voilà, ça fait boum.
Ça fait boum aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait boum et on va vous parler de plein de choses, on va écouter plein de créations sonores et on commence par un entretien avec Querelle qui nous parle d'être une folle des quartiers nord dans les années 80.
Le thème, c'est « ça fait boum ». Si tu dis « ça fait boum », ça te fait penser à quoi?
Eh bien, aux bombes qu'on n'a pas déposées dans les années 80. À ceux qui ont essayé de faire en sorte que les minorités, toutes les minorités confondues, ne se sentent jamais chez eux. À cet État qui a pensé les choses en... Parce que c'est l'État qui a pensé tout ça. Voilà. On a été trop soft dans notre militance. Vraiment trop, trop soft. À 16 ans, moi, quand... je militais pour ma propre survie ou dans les quartiers en tout cas on essayait de créer des zones de résistance, on n'a pas pensé au-delà. Et en même temps, comment tu voulais penser au-delà? C'est extrêmement compliqué. Ce boom, moi j'aimerais te dire, c'est toutes les minorités qui à l'époque auraient dû faire ce boom là par des bombes. Ça, c'est certainement ça, parce que l'extrême droite s'est pas gênée quoi à l'époque. Le jeune gitan qui a été tué, la tchoum là, c'était bien une bombe qui avait été déposée à un endroit. Alors ça veut pas dire réutiliser la même barbarie, tu peux déposer des bombes sans qu'il y ait personne et faire sauter des trucs. Mais voilà, on n'a pas appris à lutter comme ça. Et je trouve ça un peu regrettable, vraiment. Je pense que si ces rendez-vous n'avaient pas été ratés, on aurait pu réussir les plus belles choses, vraiment. Là où on a raté, c'était au niveau de cette marche. quand il y a eu cette marche des années 80, on n'a pas osé s'y rendre. On n'a pas osé, nous, en tant qu'homo, arriver là-bas et dire « Mais est-ce que vous nous accordez une place ?» Est-ce que... Voilà, on n'a pas osé. Et je pense que ça, c'est un regret. C'est-à-dire que là, merde, si ce n'était pas le problème des gens du centre-ville, c'est nous. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Quand le copain Mohamed Mouzidi m'a dit « Eric, je vais faire la marche, etc. » Celui qui a écrit la chanson, Yaouli dit pourquoi j'ai pas dit à ce moment-là, mais tiens, est-ce qu'avec mes amis homo, on pourrait venir vous accompagner à la marche? Pourquoi? Bien sûr que ça aurait été possible, mais on l'a pas fait. On l'a pas fait par peur, peut-être. Là, dans les booms, je regardais les filles et les garçons s'embrasser. On y allait, mais on n'allait pas en pétasse. On regardait ces beaux mecs, désespérément, comme des pétasses. On se disait, mais oh, putain, il peut pas être pour nous, lui, il peut pas me regarder, etc. Non, bien sûr qu'on a été dans des boums de quartier, etc. Oui, oui. Là, oui, 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 avec les copines et tout. Oui, on allait à la Busserine, il y avait un local, le G9, je crois. Je sais plus. Il y avait un local à la Busserine, et ils organisaient des booms, on y allait. Oui, oui. On était 5, nous 7 dans le quartier, tu vois, à Boom à 7. Déjà, on était visibles au sein même de la cité. Bah alors de la faire une boum, non, une boum avec des homos et tout, non, 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 non. Par exemple, Joël, qui habitait une cité dans un mode de vie aussi, mon Dieu, la pauvre. Elle singeait la duchesse, où qu'elle aille, tu vois, mais c'est ce qu'il y avait d'extraordinaire. Et elle me disait, mais tu en as combien de mecs dans la soirée, toi, ma chérie, t'as pas honte? Tu vois, c'était dit comme ça, mais c'était surjoué. C'était ce qu'on appelait la drama, quoi. Elle jouait les duchesses alors qu'elle n'en était pas du tout. Elle rentrait chez elle, il y avait les cafards qui gonflent, tu vois. Jamais de sexe entre nous. Entre nous, jamais. Jamais, jamais, jamais. Même si on avait des sentiments très forts, parce que c'est des gens que j'ai... Bon, que je les revois encore, Joël. C'est des gens que j'ai passionnément aimés. Jamais de sexe entre nous. Pour éviter les dramas, justement. Alors, on était des dramas. Si elle me voyait, je te dis, embrasser deux garçons dans la soirée, tout d'un coup, elle me traitait de pute, parce que... Mais tout ça, c'était une performance, en fait. Tu vois, c'était jouer, c'était le jeu. Non. Non, jamais entre nous, jamais. Non, 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 on était une bande de copains, copines. Pas de sexe, surtout pas de sexe entre nous, surtout pas. Même si on se désirait par moments. Des fois, on se retrouvait. Le plus terrible à l'époque, il fallait qu'on aille jusqu'à Frévalon. Alors, tu vois, Frévalon, c'est... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on n'a pas pris là-bas. Mais on y allait quand même, etc. Donc, on allait chercher la copine, on se préparait des fois chez elle ou chez moi, ou etc. Alors, quand Joël, elle sortait avec nous, la plupart du temps, donc elle avait son scooter, on montait à trois sur le scooter, ça c'était l'idéal. Après, quand on était plus, on faisait du stop. On mettait un temps fou à se préparer, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Joël, notamment, c'est elle qui jouait... alors quoi, comment aussi. Hein. Mais elle avait particulièrement tous les artifices possibles et imaginables. On avait une copine lesbienne qui était eurasienne, qui à cause de la drogue est devenue... elle aussi, elle a fait partie de cette génération. Alors elle sortait, chapeau à voilette, ombrelle, etc. Tu sais, des tenues, pas possible. Tu vois ça dans Marseille. Hein. C'était vraiment... on était belles. Quand je dis on était belles, c'était... on était libres, quand je me sens vraiment librement. Rien de neuf, rien, on volait. Non, le plus, c'était les fripes. On allait aux fripes, et donc c'était pas cher. C'était... Alors, il n'existe plus cette friperie. Alors elle pourrait te raconter deux choses, si jamais je... Sur les homos qui venaient, des quartiers qui venaient aux fripes. Baluchon, elle s'appelait. Et donc, comme elle savait qu'on venait des quartiers, alors on achetait les Spencer, tu sais, comme ça, les pantalons larges, ou alors les jabots, les machins. La copine échappait à voilette, elle nous faisait 5 francs, 10 francs. On était tout contents. Donc on arrivait à la maison, on nettoyait, etc. On repassait. On sortait, ça faisait hyper classe, tu vois, mais tu as payé ça, là où les autres avaient le centre-ville, le sac Chabran, c'était l'époque, tu vois. Quoique j'aurais aimé porter du Chabran, moi aussi, à l'époque, pourquoi pas, merde. Non, mais voilà, c'était les fripes et les vols. Mes parents, ils sont parvenus avec mon fringuin, c'était, non, 10 francs, 5 francs, tu sais, les fripes, c'était génial, les fripes. Des redingotes, j'avais des redingotes pour 10 francs à l'époque. De fabuleuses redingotes, ma mère a tout jeté, toutes mes redingotes, quand je suis parti de la maison.
Ça fait bim bam boum, ça fait pchté, ça fait vroum, ça fait bim bam boum, dans ma tête y'a tout qui tourne, ça fait pchté, et puis baba, ça fait comme si comme ça, ça fait bim bam, ah.
On va écouter une créa sonore sur Die Rote Zora, un collectif féministe de lutte armée en Allemagne entre 1977 et 1995, fabriqué à partir du livre En catimini et du site internet du même nom, qui rassemble leurs communiqués et autres textes en français et en allemand. Pour plus d'infos, en catimini Rote Zora, tout attaché, .wordpress.com.
Ich tanze auf dem Eis. Ich mache Pirouetten, Schleifen, Einbrüche, doppelte Saltos und versuche, wieder Boden unter die Füße zu kriegen.
Die Zeichen stehen auf Sturm. Der Wind dreht sich. Die Zeichen stehen auf Sturm. Der Wind dreht sich. Die Zeichen stehen auf Sturm. Der Wind dreht sich.
Ich tanze auf dem Eis.
Die Zeichen stehen auf Sturm. Der Wind dreht sich. Die Zeichen stehen auf Sturm.
120.000, 120.000, 15.000, 3.000, 15.000, 3.000, 120.000, 120.000, 15.000, 3.000, 10%, 10%, 3.000, 15.000, 120.000,
Zeichen stehen auf Sturm.
3.000,
der Wind dreht sich. Die Zeichen stehen auf Sturm. Der Wind dreht sich. Die Zeichen stehen auf Sturm. Der Wind dreht sich.
Commençons par dire qui nous sommes. Si c'est une question personnelle, alors nous sommes des femmes de 20 à 51 ans. Certaines ont des enfants, d'autres pas. Certaines femmes sont lesbiennes, d'autres aiment des hommes.
Fangen wir damit an, wer ihr eigentlich seid. Meinst du das jetzt persönlich? Dann sind wir Frauen zwischen 20 und 51. Einige von uns verkaufen ihre Arbeitskraft auf dem Markt der Möglichkeiten. Einige nehmen sich, was sie brauchen, andere sind noch nicht durchs soziale Netz gefallen. Einige haben Kinder, viele andere nicht. Manche Frauen sind lesbisch, andere lieben Männer. Wir kaufen in ekelhaften Supermärkten, wir wohnen in hässlichen Häusern, wir gehen gerne spazieren oder ins Kino, ins Theater, die Disco, wir feiern Feste, wir pflegen das Nichtstun. Klar, wir leben in dem Widerspruch, dass viele Sachen, die wir machen wollen, hinkriegen wollen, spontan und nach dem Bockprinzip nicht klappen können. Aber nach gelungenen Aktionen freuen wir uns riesig. Deshalb haben wir zum Beispiel die Prachtschlitten der Anwälte von Mietheikhausen angezündet, die für eine ganze Reihe brutaler Häuserräumungen verantwortlich waren. Deshalb haben wir durch den Nachdruck echter Fahrscheine, die wir zusammen mit den RZs im Ruhrgebiet verteilt haben, ein bisschen den Nulltarif eingeführt. Personne ne jouera plus avec nous. Wir wollen uns nicht länger gegeneinander ausspielen lassen. Personne ne jouera plus avec nous. Wir wollen uns nicht länger gegeneinander ausspielen lassen. Personne ne jouera plus avec nous. Wir wollen uns nicht länger gegeneinander ausspielen lassen. Personne ne jouera plus avec nous. Wir wollen uns nicht länger gegeneinander ausspielen lassen. Personne ne jouera plus avec nous. Wir wollen uns nicht länger gegeneinander ausspielen lassen, gegeneinander ausspielen lassen, gegeneinander ausspielen lassen.
Ich tanze auf dem Eis. Nous consommons dans des supermarchés dégoûtants. Nous vivons dans des maisons affreuses. Nous aimons nous promener, aller au cinéma, au théâtre ou en boîte. Nous faisons la fête et nous cultivons l'oisiveté. Et bien sûr, nous vivons avec la contradiction que la plupart des choses que nous voulons faire ne peuvent être faites spontanément. Mais quand on réussit une action, on a vraiment beaucoup de plaisir. Par exemple, on a mis le feu aux jolies voitures à la mode des avocats de Kaosen, le requin des loyers, qui était responsable d'une série d'expulsions brutales. Nous avons imprimé des faux tickets de transport en commun et nous les avons distribués dans le bassin de la Ruhr pour y mettre un peu de tarif zéro.
Ich mache Pirouetten, Schleifen, Einbrüche, doppelte Saltos und versuche wieder Boden unter die Füße zu kriegen.
Notre rêve est que partout existent de petites bandes de femmes. Organisez-vous en bande. Organisez-vous en bande. Organisez-vous en bande.
Bombe, 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 bombe.
Vous avez le pouvoir. Nous avons la nuit.
Die rote Zora.
Die rote Zora.
Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum.
Com o bumbum.
Ah, la boum, celle de Sophie Marceau et de ses découvertes de l'adolescence blanche, bourgeoise et hétérosexuelle. Ce slow interminable où elle a l'air de pas mal s'ennuyer. Cette scène au cinéma où des jeunes garçons cis cachent leur pénis dans un cornet de pop-corn et en proposent aux filles assises à côté d'eux. Une agression qui passe pour une bonne blague. De quoi nos imaginaires sont faits. J'ai vu ce film non pas une ni deux, mais trois fois. Je pensais l'avoir un peu enfoui, loin, 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 mais en fait, quand on a décidé de faire une émission qui fait boum, en juin dernier, à quoi j'ai pensé en premier ? À cette boum-là, avec sa petite musique entêtante. Juin dernier, c'est aussi le moment d'un battage médiatique autour de ce film, présenté comme le symbole d'une génération. Mais quelle génération ? Juin dernier, c'est aussi le moment où j'ai commencé à faire des entretiens avec des militantes LGBT autour des luttes avec le VIH-Sida dans les années 80-90. Une autre génération. Alors un grand merci à Catherine, Philippe et Didier pour avoir pris le temps de raconter des petits bouts de leurs années 80-90 à LE.
Aujourd'hui, nous partons pour le début des années 1980 quand sort sur les écrans en France le film La Boum. Bien des réalisateurs et des réalisatrices ont tenté de rendre à l'écran ce qu'étaient les affres de l'adolescence. C'est le cas pour ce film de La Boum, réalisé par Claude Pinoteau et qui aura un immense succès en France, 4 300 000 spectateurs mais également.
Donc je débarque à Paris en 79, je ne connais pas vraiment les milieux militants, je vis avec ma compagne qui va être ma compagne pendant une dizaine d'années et toutes deux on vient de Quimper et toutes deux on découvre le milieu militant à Paris. Moi je vais commencer par militer au Miel. Donc le mouvement d'information et d'expression des lesbiennes, c'était ça son titre. Et alors le Miel était à la Maison des Femmes de Paris de l'époque, donc un groupe non mixte à l'intérieur d'un lieu non mixte, et en même temps qui participait au mouvement mixte, ce qui était assez rare à l'époque. Donc le Miel faisait partie du QAR, qui était le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle. Et le QAR avait un journal qui s'appelait Homophonie. Et donc voilà, me la partie à écrire tous les mois pour Homophonie. Le journal et puis le comité de rédaction, mais aussi donc le QAR. On est là où il va y avoir quasi les premiers cas de sida très vite. Je ne sais pas si on est dans les 5 premiers ou un peu plus, mais c'est dans les groupes, dans le nombre des 10 premiers. Et donc, d'un coup, on prend ça dans la figure. Il y a deux choses, on va voir. Les personnes commençaient à être moins bien, où tout le monde s'inquiétait de ben, qui, comment ça se fait. Et en même temps, découvrir dans la presse les premières façons de présenter le sida en lien avec simplement l'homosexualité. Et pour nous qui nous battons sur nos droits, ça nous semble à la fois incongru. Pourquoi ça toucherait que ces personnes-là? Et en même temps, complètement fou. Puis un peu à la fois, il va falloir prendre en compte vraiment que c'est pas une blague de l'esprit, c'est pas simplement une volonté de nous discriminer une nouvelle fois, mais qu'il va y avoir parmi nous de plus en plus de malades.
Je suis diagnostiqué séropositif en 90, j'ai 22 ans. Je viens tout juste d'avoir 22 ans d'ailleurs. On est encore loin des trithérapies. Mais j'ai une confiance absolue. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais je suis intimement persuadé que je ne mourrai pas de ça. I didn't realize that my life would change. Je me suis jamais senti l'âme d'un militant, et en même temps, ta condition fait que tu es obligé d'agir politiquement. Enfin, la drogue, la boîte de nuit, tout ça, ça participe aussi, je pense, d'une forme de politique. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ACT UP sort des slogans comme SIDA égale disco. Ou danser égale vivre. Saw you standing there. I didn't know I'd care.
There was something special in the air. C'est devenu un enjeu collectif dès le début, même avant la création d'ACT UP aux États-Unis. Il y a des artistes qui ont créé ce grand poster où il y a marqué silence égale mort sur fond noir avec un triangle rose. Et d'ailleurs, cet artiste m'a dit que, en fait, quand il a sorti en 85, tous les militants d'ACT UP et tout ça, et même des autres associations à New York, trouvaient ça too much. Et nous, quand on a créé ça, bien sûr, on a fabriqué les t-shirts silence égale mort. Et le fait d'aller dans un bar gay ou dans la rue ou aller faire ses courses et puis avoir un t-shirt avec un triangle rose et puis silence égale mort, c'était quelque chose de non seulement interpellant parce que les gens ne comprenaient pas forcément le message qu'on peut appliquer à plein d'autres choses, mais surtout le fait d'être frontal vis-à-vis de l'idée de mort dans une maladie, dans une épidémie, c'était un outil de propagande autant que c'était un outil de confrontation. Je pense que, bien sûr, ACT UP a dramatisé la mort, a dramatisé la maladie, mais c'est pour susciter une envie de s'engager et de contribuer, et c'est ça qu'on a fait. Je crois que pour un groupe de jeunes, se battre sur une maladie qui est nouvelle, sur des épidémies et tout ça, c'est peut-être vieillir un peu plus tôt, mais c'est aussi un levier de pression qui est incroyable au niveau militant.
Entre tes bras couleur cacao.
Et vous êtes toujours dans Sur le fil. Ce mois-ci, on fait boom et on vient d'écouter Niagara Cheeky Boom.
Toi, t'aimes bien les explosions ?
Oui.
Il y a quoi qui explose ?
Le volcan, le dynamite, les feux d'artifice.
Et t'aimes bien quand ça fait boom ?
Ouais, j'adore.
Là, tout à l'heure, t'as appris à faire boom, à faire exploser un truc ?
Oui.
T'as fait comment ?
Et j'ai écrasé sur mes pieds. C'était une pompote en fait, c'est que genre comme une compote mais avec un bouchon et tout. Je l'ai gonflé, j'ai fermé, bien sûr. J'ai écrasé avec mes pieds et du coup ça tout a éclaté.
Et est-ce que t'avais de la compote partout ?
Non. Toi oui, mais moi non.
On a des images assez terrifiantes à vous présenter. Les premières informations veulent qu'un avion se soit précipité contre le World Trade Center.
Il s'agit là d'un attentat.
We have a terrorist act.
Les informations, évidemment, arrivent au compte-gouttes.
Il semblerait qu'un troisième avion se soit jeté sur le Pentagone.
C'est l'état d'alerte.
L'Amérique doit faire face à un ennemi qui n'a aucune considération pour les règles de la guerre ou de la moralité. Le peuple que vous allez libérer vous rendra hommage.
Et en Irak, des soldats américains écoutent leur président devant une télévision, sous une tente, en plein désert. Ils s'apprêtent à attaquer.
On en a marre d'attendre. On a déjà donné beaucoup de chance à Saddam Hussein. Mais il a seulement fait ce qu'il voulait faire. Alors je veux que ça commence, qu'on mette Saddam dehors et qu'on en finisse. J'espère que ce sera court, ça prendra pas un mois. On désarme et voilà, c'est tout. Alors maintenant, laissez-nous terminer.
Beaucoup pensent alors que la guerre sera courte, ce qui ne sera évidemment pas le cas.
J'ai fait celui-là à 44.
Ouais, bonne idée. C'est celui de la
fin. Ferme la bouche,
Guy. Le nez. Attention.
J'ai un protège-dents.
C'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du Monde de rugby.
Parce qu'on se ment, on tient le coup.
comme avant. Moi je fais rien ce soir, j'ai plus le goût à la fête. Et ce monde qui chante me fait mal à la tête. Je veux me foutre dans le noir pour cacher mes défaites. Mais ce monde qui danse me fait tourner la tête.
Tourner la tête, tourner la tête, dites-lui qu'il arrête.
Danser sans moi, rire sans moi, chanter sans moi. Aller danser sans moi, rire sans moi, chanter sans moi. Moi je fais rien ce soir, j'ai plus le goût à la fête. Et ce monde qui chante me fait mal.
C'était Amel Ben sur Radio Galère avec Tourner la tête.
Ce qui m'a donné le tournis et ce qui m'a fait boum au mois d'août, c'est de tomber sur une affiche sur toute la longueur d'un grand bus marseillais avec la tête de Sarkozy et un message « Le temps des combats ». Et donc « Le temps des combats », c'est le nouveau livre de Sarkozy. Mais quoi, il n'est pas en procès au tribunal et en taule, lui. Une tentative de retour qui n'a rien d'une renaissance. Il cherche à prendre une place de vieux sage à la fois faiseur de roi et mentor. Mais non, mais j'ai pas envie qu'il revienne en politique entre Marion Maréchal et Zemmour pour incarner les combats réactionnaires et racistes. Pour être un mentor, encore faut-il être écouté et suivi. Et j'espère que son livre ne sera jamais lu.
Et on continue cette émission qui fait boum avec un entretien avec Raviera qui nous raconte le 11 septembre au Chili et l'impact que ça a eu sur sa famille.
Je m'appelle Raviera, j'ai 40 ans. Mes deux parents sont chiliens. Ils sont arrivés dans les années 80 en France et moi je suis née ici quelques années après. J'ai toujours posé beaucoup de questions petites sur ce pays, sur pourquoi est-ce que mes parents étaient arrivés en France, et le côté politique dans le sens où je voulais savoir ce qui s'était passé, l'histoire. Donc petite, j'avais cette curiosité. Mes parents, je ne sais pas à quel âge ils ont commencé à militer dans un parti de gauche révolutionnaire au Chili. Ils étaient assez jeunes, j'étais même très jeune, j'étais adolescente. Ils ont entendu le discours de leur président de l'époque, donc Salvador Allende, qui le 11 septembre du coup 1973 s'est fait renverser par un coup d'État. Donc lui, il était au palais de la Moneda, le palais présidentiel, et il a donné un discours très émouvant d'ailleurs, à la radio, avant que les militaires rentrent au palais pour prendre le pouvoir. Et il s'est donné la mort du coup juste avant.
Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Mes parents, je crois qu'ils avaient 15 ans quand ils l'ont entendu. Et à ce moment-là, ils se sont dit qu'ils allaient continuer le combat en fait, du président socialiste Allende et qu'ils n'allaient pas se laisser faire, ils n'allaient pas laisser cette dictature de Pinochet qui a orchestré ce coup d'État. Ils ont milité du coup, pour ce parti de gauche révolutionnaire. Moi, je ne connais pas tous les détails de tout ce qui s'est passé, mais c'était un parti clandestin. Ils se réunissaient de manière clandestine, ils étaient tous clandestins, ils étaient tous cachés, et ils menaient des actions politiques contre Pinochet, qui avait renversé le pouvoir. Mes parents ont vécu comme ça plusieurs années, donc ils ont eu mon frère en clandestinité. Eux, ils avaient 22 ans, je crois. Et là, mon père se fait arrêter. Enfin, en gros, il s'est fait dénoncer par son meilleur ami qui a disparu par la suite. Et il est resté un an en prison. Ma mère, à ce moment-là, est partie avec mon frère, donc tout bébé, en France, là où mes grands-parents habitaient, donc les parents de mon père. Ils étaient installés à La Rochelle déjà. Donc ma mère est partie là-bas et grâce à un avocat, ils ont réussi à faire sortir mon père de prison. Et donc mon père est arrivé ensuite en France. Jusqu'à mes 16 ans, j'ai vécu en France. Mon père était parti au Chili, retourner vivre là-bas. Ils ont décidé que nous partions avec ma sœur vivre au Chili, faire le lycée. Le 11 septembre, c'était pas une date pour moi qui était marquante. Ni petite, ni adolescente. Plus, après, en étant au Chili, oui, plus. Après, moi, le rapport, du coup, à la dictature, à tout ce qui a pu se passer, c'est pas sur cette date-là. C'est quelque chose que je subis, entre guillemets. En général, j'ai un certain détachement. Et ça peut me prendre si j'ai, je sais pas, une vidéo, un son, enfin, un audio, un rapport avec, avec tout ce qui a pu se passer, si j'ai un témoignage. Là, ça peut me prendre et ça peut me faire réagir et je peux être très sensible à ce moment-là. Mais de manière générale, non, c'est pas quelque chose auquel je pense. C'est pas quelque chose qui est très présent en moi, quoi. Et pour moi, le 11 septembre, je l'associe plus... Moi, j'étais au Chili à ce moment-là. Un autre événement qui est venu superposer à cette date, qui est celui des tours jumelles qui s'effondrent. J'étais en classe et qu'on a vu la vidéo à un moment donné et qu'il y a eu une minute de silence ensuite, que des élèves ne voulaient pas participer à cette minute de silence, qu'ils ont dû faire une lettre d'excuse pour revenir. Je l'associe plus à ça maintenant, le 11 septembre. Enfin, non, j'ai toujours les deux dates en tête. Mais... c'est une date que, comme je l'ai vécue en direct, enfin, je veux dire, j'étais vivante à ce moment-là, donc c'est la date qui sur le coup, j'ai le plus de connexion, entre guillemets, quoi. Mais même dans ma famille, c'était pas quelque chose non plus... ma famille au Chili, je veux dire, je partageais pas ça avec eux, ce fait de commémorer le 11 septembre. Moi, je me sentais quand même assez détachée de tout cela, en fait, de cette histoire. D'un côté, je me sentais concernée par mes parents. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait définie parce que mes parents sont allés en France, que je suis née là-bas. Mais c'est pas le 11 septembre en particulier qui me rappelle tout ça, en fait. C'est pas du tout une date que je commémore. Je sais que j'ai des amis, ils se réunissent entre eux, même en France. Ils font des actions pour qu'on n'oublie pas cette date. Moi, ça n'a jamais été un besoin pour moi. Même ma sœur le vit très différemment. Elle a un rapport beaucoup plus, justement, de commémoration par rapport à cette date, mais moi, non.
Oh,
Tollard dans Sur le fil avec la chanson « Pourquoi suis-je allé au boom ?». Il est 18h45, l'émission touche à sa fin et en dernière partie pour conclure d'une manière, nous avions envie de vous diffuser des sons enregistrés à plusieurs pendant un séjour adapté avec des jeunes autistes, comme une tentative pour faire entendre ce qui peut faire « boom » pour des personnes qui sont parfois débordées par les émotions et qui ont peu de mots pour les exprimer.
Jusqu'ici, la colonie, c'est par là.
T'es déjà là, vous ? Je sais pas, tu veux chanter quoi, toi ?
La qui pense.
C'est la qui pense.
C'est la qui pense.
Ouais, on va chanter. On va prendre les gens. Bah, tout le monde va prendre sa vie.
Ah, ah, t'entends quelque chose?
Mimi,
on dirait l'avion qui mobile.
Tu fais la vache?
Ouais.
C'est chaud.
T'es avec Salah ce soir?
Non, je suis avec Mika.
C'est qui avec Mika?
C'est moi.
Et demain?
Demain. Ah, attention, là, il y a un piège, ouais.
C'est
ouais, c'est bon.
Ah, bon.
Ah, bon.
Je vais courir.
Tu vas courir?
Ouais.
Jusqu'à Salah? Et après? Ok. Tiens, là, on peut marcher.
Yeah.
Et voilà, c'est sur un son de Colonie que se termine cet été, mais aussi cette émission de Sur le fil.
Et merci à tous nos camarades et toutes nos camarades de Sur le fil qui n'étaient pas en studio ce soir, mais qui nous ont envoyé tous les sons.
Et puis, ben, bon courage pour la rentrée si vraiment elle est trop dure, parce qu'elle n'est pas facile cette rentrée. N'hésitez pas à réécouter d'autres émissions de Sur le fil qui mettent un peu la patate.
C'est sur radiorageuse.net ou sur le site de Radio Galère. On se revoit le mois prochain. On se réécoute le mois prochain.
Ciao.
Salut.
C'est une bonne radio et bah au revoir.
Un verre de vodka black à la main, puis à la bouche. Bouquet de perspective noire, la mort, le bruit des mouches. Chata boum, c'est comme dans une église. La cocu nouvelle aux filles, les connards s'appellent Elise. Oh, avec un cigare dans le salon, la mort viendra comme je suis venue avec un garçon. Mon regard est pailleté, un pentacle autour du cou. L'amour, l'ébriété, oui je t'aime toujours à ta boum. VBT 45 tours, le flacon de Erisa. Grand frisson au premier lap. Ballon multicolore, chantier qui l'a hâte. Junk de luxe, punk luxure, on est parti en fuck. Croque et si, souhaite un sur, faut que ce soit trop fun. Nique sa rêve, un verre de rhum, j'me trémousse. Des cames, des crèmes, mais j'craque sur un pimousse.
MV, mes PMC et DMA. Sniff, sniff, parce que tu es Kim Johanna. Sirop de cassis sous pressant et puis MDMA. MV, mes PMC et DMA. Sous ma robe se cache la drogue, mon cœur glacé. Shit, fric, confetti, un slow, veux-tu m'embrasser? Ton corps me dit ça suffit, la coque me dit pas assez. Toujours pitchy gothique, bouche violette et flow érotique. Mon numéro sur tous les beaux types. Le parquet transpire, c'est French cancan. Boutique shake me, en mode transcendant. Chorégraphie luciférienne, juste clair moulant. Si tu es ballerine, c'est pour les chrétiennes mourantes. AMB, mes PMC et DMA. Sniff, sniff, parce que tu es Kim Johanna. Sirop de cassis sous pressant et puis MDMA. AMB, mes PMC et DMA.